VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h à Ouagadougou, midi donc à Kinshasa. Les attaques de deux commissariats dans la nuit de lundi à mardi dans la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière malienne, ont fait seulement une blessée et ont été revendiquées par le groupe qui avait tué 12 soldats dans le même secteur en décembre dernier. Il n'y a pas eu de mort, une femme de policier a été blessée, a affirmé à l'AFP Mohamed Da, le haut commissaire de la région du Soum, à propos des attaques menées par des djihadistes à moto dans les localités de Baraboulé et Tongomayel. Cette attaque est survenue alors que se tient le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision, le FESPACO, qui attire depuis samedi et jusqu'au 4 mars des dizaines de milliers de cinéphiles, dont de nombreux étrangers, dans la capitale burkinabé, située à 210 km au sud de Djibo, la capitale du Soum. Et pendant ce même moment, sur le sol burkinabé se tient des exercices militaires américano-burkinabé. Le but de ces manœuvres, baptisées Flintlock, est d'améliorer les capacités opérationnelles des militaires pour contrer le terrorisme. Le point avec Bagasikoura.
Le Burkina Faso participe depuis 10 ans aux manœuvres Flintlock. C'est la deuxième fois après 2010 qu'il accueille cet exercice qui se tient également dans 6 autres pays, notamment au Tchad, au Cameroun, au Niger, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Cet exercice prévu pour durer 3 semaines est financé par les États-Unis. À Camboinsin, au nord de Ouagadougou, la formation militaire est dirigée par un détachement des forces spéciales américaines. À Bobo-Dioulasso, à l'ouest du pays, elle est assurée par des forces spéciales des Pays-Bas. L'état-major général précise que les participants, dont le nombre n'a pas été dévoilé, mèneront des exercices tactiques de petites unités pour inclure des parcours de tir, des mouvements motorisés ou à pied, des exercices de reconnaissance ou de combat rapproché. Le Burkina Faso est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord frontalier du Mali et du Niger.
En Somalie, l'explosion d'une bombe artisanale posée dans une voiture a fait un mort à Mogadiscio ce mardi. La victime, non identifiée, a pris place dans le véhicule, selon des sources sécuritaires, pour se rendre à son lieu de travail. Plusieurs autres personnes auraient été blessées dans l'explosion qui s'est produite dans le district de Waberi, situé au nord de l'aéroport de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué. Mais les attaques à la bombe et les assassinats en Somalie sont souvent le fait du groupe islamique Al-Shabaab.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président guinéen Alpha Condé a limogé 3 ministres selon un décret lu lundi à la télévision nationale à la suite de violentes manifestations liées à une grève des enseignants la semaine dernière qui se sont soldées par la mort de 7 personnes et par des dizaines de blessés. Ibrahima Kourouma, ministre de l'Éducation, Sekou Kourouma, ministre des Services civils et Christine Sagno, ministre de l'Environnement, ont été démis de leurs fonctions. À Kalmi, en RDC, en République démocratique du Congo, à Rutshuru notamment, après une semaine de troubles dans ce territoire situé à 80 km au nord de Goma, dans l'est du pays, des affrontements avaient opposé l'armée congolaise aux éléments de l'ex-mouvement rebelle du M23. Charlie Kasereka est à Goma.
Duncan pense que le mouvement rebelle M23 avait retourné en RDC, y menait une nouvelle guerre et profitant de la situation politique actuelle en RDC. Stéphane Machukano est un acteur politique ici au Nord Kivu qui condamne cette nouvelle agression et présente sa crainte.
On aimerait à ce que le gouvernement éclaircisse ce point et qu'on n'entende plus jamais parler de ce mouvement M23 parce que nous savons qu'il a été vaincu. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce M23?
La crainte, c'est aussi les journalistes qui sont menacés. C'est samedi, le directeur de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma, a reçu des menaces par un individu qui s'est présenté comme un officier M23, lui menaçant de porter atteinte à sa vie et celle de sa famille dans leur prochain assaut sur la ville de Goma.
Il m'a appelé, il m'a envoyé d'abord des SMS, des menaces qu'il prendra mon média, qu'il va prendre ma maison. On a parlé pendant 6 minutes et ça a été dur. Il a confirmé qu'ils vont prendre la ville de Goma dans un mois et que je serai la cible avec mon média. Mais bon, moi, j'ai choisi ce métier. Hein. C'est des métiers où on doit être très prudent. Pourtant, on a vraiment gardé toute la prudence, mais je m'inquiète pour les miens.
sur les terrains à Rutshuru. Actuellement, c'est un calme apparent après une semaine de troubles dans les collines et les vallées de ces territoires frontaliers avec le Rwanda et l'Ouganda. Il y a eu contact et échange de tirs, confirme l'officier Guillaume Djike, porte-parole militaire de Sokola 2, qui présente les premiers bilans.
Il y a eu deux éléments extrêmes d'envoi tués. 56 se sont rendus auprès. Et nous avons récupéré 8 armes sur l'ennemi. Le corps d'armée de la République démocratique du Congo ont tous les moyens matériels et humains pour marcher quiconque oserait mettre à mal la quiétude de notre population pour ça que notre population soit rassurée.
Pour les cadres du mouvement rebelle, les ex-combattants M23 qui voulaient retourner en RDC étaient non armés et n'avaient aucune intention de mener la guerre. Bertrand Bissimwa, président du mouvement M23, qui est aussi en exil en Ouganda.
Les informations que j'ai font état d'une offensive lancée par le gouvernement congolais contre des ex-combattants et ils sont rentrés pour aller se réinstaller dans leur pays, étant donné que le gouvernement congolais a refusé d'utiliser les moyens de retour qui étaient prévus par les déclarations de Nairobi.
Gilem Paluku, gouverneur du Nord Kivu, l'un des experts présents à Nairobi lors des discussions en 2013, précise que le gouvernement congolais n'avait jamais signé d'accord avec le mouvement rebelle M23 si ce n'était que des déclarations. Difficile actuellement de savoir avec certitude si, après les affrontements de la semaine dernière, tous les éléments M23 auraient retourné en Ouganda, d'où ils sont venus. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Au Kenya, le gouvernement va cesser de financer toute publicité dans les médias privés du pays. Les autorités comptent lancer leur propre journal gratuit. De nombreux acteurs des médias qualifient la décision de tentative de museler la presse. Jacques Aristide.
Les encarts publicitaires payés par le gouvernement rapportent près de 20 millions de dollars chaque année aux journaux kenyans. À la place, le gouvernement offrira gratuitement son journal intitulé MyGov pour faire des économies. Dans un mémo, le secrétaire général de la présidence, Joseph Kinuya, ordonne aux agents administratifs en charge de la publicité de diriger tous les encarts vers le nouveau journal gouvernemental sous peine de sanctions disciplinaires. L'ONG Article 19 estime que cette décision témoigne d'un projet délibéré du gouvernement de Nairobi d'avoir le contrôle du contenu éditorial des médias. Henri Maina, son directeur régional, d'ajouter que c'est une menace sérieuse pour la gestion et le fonctionnement des journaux indépendants. Le régime actuel est perçu comme très hostile aux médias. Dans un pays où la liberté d'expression est plutôt bien ancrée, le Kenya figure à la 95e place sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Un parlementaire égyptien connu pour son opposition au gouvernement a dénoncé aujourd'hui son exclusion du Parlement, un message clair envoyé selon lui à la dissidence. Mohamed Anwar Sadat, un neveu de l'ancien président égyptien, a été exclu du Parlement lundi par un vote de ses collègues. Il est notamment accusé d'avoir fait fuiter un projet de loi controversé sur les ONG à des ambassades étrangères.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
6h08 ici à Washington. Donald Trump s'adresse ce soir aux deux chambres réunies du Congrès américain. Hier, il a proposé une hausse historique des dépenses du Pentagone et une réduction de l'aide internationale. Chérubin Dorcel.
Ce sera son premier discours devant le Congrès réuni au grand complet. Hier, le président Trump, lors d'une rencontre avec les gouverneurs, a affiché sa volonté de présenter un budget dit de sécurité nationale. La Maison-Blanche va proposer une hausse de 54 milliards de dollars pour la défense, qui serait compensée par une baisse des dépenses non militaires. La plupart des agences fédérales vont devoir subir une cure d'amaigrissement accompagnée d'une importante réduction de l'aide internationale. Un plan détaillé du budget fédéral de près de 4 000 milliards de dollars est attendu dans les semaines à venir. Le Congrès, qui tient les cordons de la bourse, aura le dernier mot. Avec près de 600 milliards de dollars, les dépenses militaires américaines sont de loin les plus importantes du monde. Elles sont trois fois plus élevées que celles de la Chine, la deuxième puissance militaire, et plus de huit fois supérieures à celles de la Russie.
Les forces américaines en Afghanistan ont confirmé aujourd'hui avoir tué dans un raid aérien dimanche un commandant taliban. La mort du mollah Abdul Salam Akhund a été annoncée par le gouverneur de la province et reconnue par les talibans. Akhund avait mené depuis 2011 plusieurs offensives des insurgés sur Kunduz, une ville clé du nord, nœud commercial important proche du Tadjikistan. Et puis, en Irak, les forces de sécurité s'approchaient un peu plus ce mardi du principal complexe gouvernemental dans l'ouest de Mossoul, dernier grand bastion du groupe État islamique, selon un porte-parole des unités du ministère de l'Intérieur. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 55 minutes avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.